Le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Voter Mélenchon, ça n'est pas un tract de la France insoumise, mais l'appel de Ségolène Royal pour l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, c'est le seul vote utile à gauche. La campagne sans dessus-dessous, c'est aussi Valérie Pécresse à la recherche du vote des électeurs fillonistes de 2017. Bah, c'est pas gagné, on va l'entendre à Sablé-sur-Sarthe. Éviter les transports en commun demain en Ile-de-France, c'est la grève à la RATP, elle sera massive. Éviter de rester dans un pays qui ne veut plus des Français, le Mali. Emmanuel Macron annoncera ce matin le départ des troupes européennes. On en parle, Jérôme, avec vos invités tout à l'heure.
Oui, avec le journaliste à l'opinion, spécialiste de politique internationale et de défense, Jean-Dominique Mercher, et avec le journaliste spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser. Ils sont les invités du grand entretien de la matinale. Vous leur posez dès à présent vos questions au 01 45 24 7000.
Information France Inter, un cybergang démantelé dans la région lyonnaise. Il fournissait de faux passes vaccinaux et ça rapportait gros. Dans ce journal aussi, les bénéfices de Carrefour. Les salariés du groupe vont en profiter. Moins d'appartements Airbnb à Bordeaux et à la rencontre du Petit Prince et de son manuscrit signé Saint-Exupéry, exposition exceptionnelle au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
France Inter.
Comment s'y retrouver dans cette campagne quand une figure de la droite LR, Éric Woerth, rallie Emmanuel Macron, quand Guillaume Pelletier, l'ancien numéro 2 du même parti, s'en va chez Éric Zemmour, comme le porte-parole de Marine Le Pen, ça y est c'est officiel, Nicolas Bay l'a annoncé hier soir, et quand une ancienne candidate socialiste, finaliste de la présidentielle 2017, appelle à voter contre son camp, au grand jeu du qui roule pour qui, Ségolène Royal a choisi ni Hidalgo, ni Taubira.
Et aujourd'hui c'est évident que le vote utile à gauche, bah c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups, c'est lui le plus solide. C'est lui le plus solide.
Voilà, n'en jetez plus. Jean-Luc Mélenchon remercie évidemment Ségolène Royal pour son soutien. C'était hier soir sur BFM avec un gros tacle à Anne Hidalgo au passage. À sa place, j'arrêterai, dit l'ancienne candidate socialiste. Quant à Christiane Taubira, à la peine avec ses parrainages, elle écrit directement aux maires de France pour leur demander de la soutenir au nom du débat démocratique qui sinon, écrit-elle, serait amputé de la parole d'une femme d'État libre des partis. Christiane Taubira n'a que 73 signatures pour l'instant. À droite, Valérie Pécresse a tout ce qu'il faut, question parrainage, mais ce sont les électeurs qu'il faut convaincre. Ce qu'elle va tenter de faire en Vendée aujourd'hui, à l'assaut de l'électorat filloniste. En 2017, François Fillon, malgré les affaires, avait recueilli 20% des suffrages. 7 millions d'électeurs voteront-ils de nouveau à droite le 10 avril prochain? Anne Souhaitemont a tâté le terrain à Sablé-sur-Sarthe, l'ancien fief du candidat.
Ils ont beau avoir voté Fillon à plus de 50% en 2017, pas évident de trouver des Saboliens prêts à voter Pécresse. Nicole, 82 ans, l'envisage.
Bah peut-être, ça je crois qu'elle est pas mal.
Mais sans grand enthousiasme.
Ça vaut pas les anciens. Moi je m'en rappelle d'un, le président Coty. Il était bien lui.
La plupart des habitants ayant voté Fillon en 2017 penchent en fait pour Emmanuel Macron.
Oui, bah ça sera probablement lui.
Probablement Emmanuel Macron. Hein.
À la limite, peut-être Macron, parce que bon, il a fait des erreurs, mais il n'a pas fait que des erreurs.
Et l'argument est toujours le même, qu'ils soient jeunes actifs, comme Yelena, enseignante.
Emmanuel Macron, il a quand même assez bien géré la crise sanitaire, même si bon, il a quand même ses torts. Il peut encore tenir la route pour un deuxième quinquennat. Quoi.
Ou retraité, Thérèse a plus de 80 ans.
Tout ce qu'il a fait, c'est impressionnant quand même. Les gilets jaunes, le copie. Faut pouvoir le faire. Hein.
Pour Gaëlle, pas question de voter ni Macron, ni Pécresse.
Oui, mon choix est fait.
Fidèle électrice de droite, son candidat pour 2022 s'appelle Éric Zemmour.
Parce que il reprend pas mal de choses de François Fillon. Il est même plus à droite encore que François Fillon. Et je pense que par rapport à la situation de la France, il faut une réponse forte.
D'où la visite on ne peut moins anodine de Valérie Pécresse dans la région à 7 semaines du premier tour.
Voilà, Valérie Pécresse rappelée à l'ordre par le préfet d'Île-de-France. Il lui demande d'annuler deux de ses projets phares en matière de sécurité. Le financement des polices municipales et les brigades chargées des lycées parce que la sécurité ne fait pas partie des compétences des régions.
Un vendredi en télétravail demain.
Recommandation du ministre des Transports aux entreprises parisiennes car ce vendredi sera jour de grève massive. massive à la RATP. 8 lignes de métro fermées et la moitié des RER en heure de pointe. L'ensemble des syndicats appellent à cesser le travail. Ils réclament 3% d'augmentation des salaires. Bertrand Hamache est secrétaire général de la CGT RATP, interrogé par Kathleen Comte.
Depuis quelques années maintenant, il y a un gel de la valeur du point dans nos salaires. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que le salaire statutaire soit réévalué. La direction, elle propose 0,4%. Nous, on demande qu'il y ait au moins 3% d'augmentation de la valeur du point qui va nous suivre toute notre carrière et qui servira à calculer notre niveau de pension. Dans la période, on est dans une situation conflictuelle avec la RATP, puisque ce qui est aujourd'hui dans le tuyau, c'est de baisser le nombre de repos pour être dans la norme du marché du transport public. Nous, on considère que les transports publics ne sont pas une marchandise, donc il faut y mettre les moyens pour la sécurité des voyageurs, donc il faut qu'on travaille forcément un peu moins qu'une autre profession. Et donc là-dessus, on est en complet désaccord avec la RATP et Île-de-France Mobilité qui veut privatiser l'entreprise.
Des hausses de salaire, les surveillants de prison en réclament aussi. Plusieurs établissements sont bloqués depuis ce matin. Entrée et sortie impossible. À l'inverse, les salariés de Carrefour vont être augmentés. Le groupe est de plus en plus rentable. Chiffre d'affaires en hausse l'an dernier, plus 2,3%, soit 81 milliards d'euros. La stratégie de Carrefour est payante. Agnès Soubiran et les actionnaires ne seront pas les seuls à en bénéficier.
Carrefour se présente comme le premier livreur de France, captant 30% du marché de la vente en ligne dans le secteur de l'alimentation. Il faut dire que le groupe dirigé depuis 5 ans par Alexandre Bompard multiplie les alliances, tout récemment encore avec Cajou pour la livraison ultra rapide. Une stratégie gagnante, les ventes sur le net sont en hausse de 20%, avec l'objectif de franchir le cap des 10 milliards d'euros d'ici 4 ans. Les hypermarchés les moins rentables ont été mis en location gérance et les ouvertures de petits carrefours de proximité se sont multipliées, 3000 l'an dernier à l'échelle mondiale. Fort de ses succès, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,52 € par action lors de la prochaine assemblée générale, contre 0,48 il y a un an. Quant aux 110 000 salariés en France, ils vont bénéficier du nouvel accord en passe d'être signé et qui prévoit une augmentation des salaires de 3,8% sur un an, une remise sur les achats qui passe de 10 à 12% et qui concerne aussi les carburants, et d'une prime de participation de 941 € contre 824 dernier.
Passera-t-il complètement la main à ses fils ce jeudi, comme il l'annonce depuis des années? Vincent Bolloré, 70 ans, fête aujourd'hui le bicentenaire de son groupe, mais le flou demeure sur la date réelle de sa succession, alors que plusieurs gros dossiers restent à boucler, comme l'acquisition de Lagardère. Dominique Seux en parlait il y a quelques minutes.
Quitter le Mali après 9 ans de lutte contre les djihadistes.
Voilà ce que devrait annoncer Emmanuel Macron ce matin, pas parce que la guerre est gagnée, mais parce que la junte malienne au pouvoir après deux coups d'État ne mise plus sur la France. Dialogue rompu entre Paris et Bamako, présence des mercenaires russes de la force Wagner, mais les militaires français ne partiront pas tout seuls. La force européenne Takuba va partir avec eux, Franck Cognard.
Il y a quelques semaines au Mali, un soldat estonien de Takuba confiait « Pas question de rester si les mercenaires russes de Wagner mettent le pied ici ». Wagner est désormais au Mali, les soldats français vont quitter le pays. La France était la nation cadre de Takuba, celle qui a entraîné les autres, qui a insisté en disant « Venez, venez, venez ». Elle ne pouvait pas dire « Nous, on s'en va, mais vous, s'il vous plaît, restez, restez, restez ». Takuba, c'était moins d'un millier d'hommes, moitié de Français. C'était des pays européens engagés à des niveaux divers. Si, par exemple, Estoniens et Tchèques se battaient au sol, les Italiens et leurs hélicoptères étaient là pour l'évacuation médicale. Les Belges renforçaient l'état-major. Chaque nation fournissait une brique ou plusieurs, selon ses moyens. Et malgré des débuts difficiles et parfois moqués, Takuba commençait à bien tourner, à faire du bilan sur le terrain. Un euphémisme militaire pour ne pas dire « tuer des ennemis ». Takuba va donc disparaître et renaître sous un autre nom, sous des modalités différentes, mais avec un même socle de forces spéciales européennes, sans doute au Niger, où les autorités accepteraient d'accueillir ces militaires peu nombreux et discrets.
Fallait-il croire Vladimir Poutine et ses annonces de retrait des troupes russes aux frontières ukrainiennes? Depuis deux jours, les Occidentaux étaient sceptiques. Et hier soir, Washington a douché les espoirs de désescalade. Selon la Maison-Blanche, non seulement la Russie n'a pas retiré de soldats, mais elle en a dépêché 7000 de plus, dont certains sont arrivés hier. 30 000 faux passes vaccinaux écoulés en quelques clics, 600 000 euros de chiffre d'affaires, des malfaiteurs qui portent des montres de luxe et roulent en gros 4x4. Voilà le tableau du dernier réseau démantelé par les gendarmes. C'est le troisième dans la région lyonnaise. Une quinzaine de personnes arrêtées la semaine dernière. Information France Inter signée Emmanuel Leclerc. On parle, Emmanuel, de cybergang avec des pirates informatiques qui s'infiltrent dans les comptes Amélie des médecins, des revendeurs et des rabatteurs sur Internet.
La dernière affaire est partie d'une histoire de violence violences intrafamiliales dans la région de Thonon-les-Bains. Dans le téléphone du conjoint violent, les gendarmes découvrent à la fin de l'été dernier un faux pass sanitaire. Près de 6 mois d'enquête pour trouver des failles numériques et des suspects qui se cachaient derrière des profils anonymes de rabatteurs, de revendeurs de pass sanitaires et enfin à leur tête de véritables hackers professionnels. Et c'est le 3e cybergang lyonnais présumé qui est démantelé en ce début d'année. Sylvain Noyau est le chef de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.
On a remonté des hackers qui étaient effectivement sur le territoire et qui étaient à la tête de réseaux qui sont donc très structurés.
Vous êtes tombé sur un étudiant ingénieur informatique, j'imagine que ça ne vous a pas surpris.
Alors, non, vu le niveau déployé par certains hackers, ça ne nous a pas surpris d'avoir des spécialistes en informatique face à nous. Et on a des gens qui sont déjà connus de nos services, qui demain feront certainement des fraudes aux moyens de paiement.
Selon nos informations, la particularité de ces petites mafias du faux pass sanitaire apparu l'été dernier, c'est que leurs membres présumés ne se sont jamais rencontrés à part sur les réseaux sociaux et sur le dark web et qu'ils ne savent a priori même pas qu'ils habitent à quelques kilomètres seulement les uns des autres, près de Lyon.
Des passes vaccinaux dont on pourrait se passer dès le printemps si la situation continue de s'améliorer. C'est Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui donne son avis dans Le Parisien ce matin. Selon lui, nous sommes au début d'une nouvelle ère marquée par une circulation contrôlée du virus.
C'était il y a 30 ans l'opération Main Propre en Italie.
Manipulité, comme on dit là-bas, des centaines d'enquêtes, des hommes politiques et des entrepreneurs arrêtés pour corruption. Les partis à l'époque sont décapités, mais au final, peu de têtes d'affiche ont vraiment fait de la prison. Et 30 ans plus tard, la question du poids et du rôle des politiques par rapport à celui des magistrats se pose encore, Bruce de Galzin.
Nous sommes en 1993. À son tour, Bettino Craxi, l'ex-président du Conseil et alors secrétaire du Parti Socialiste, est lui aussi rattrapé par les juges. En sortant de l'hôtel Raphaël à Rome, la foule, retenue par les carabiniers, lui envoie des pièces et des billets au cri de « Bettino, tu les veux aussi cela ?» Sa fille, Stefania, se souvient au micro de la Sky.
J'ai vu cette scène barbare, cette agression à la télévision, et j'ai été très choquée. Je me souviens que mon père m'a appelé ce soir-là, il était 23h30, peut-être que je pleurais, et il m'a dit « Souviens-toi qu'un Craxi ne pleure pas ».
Stefania Craxi défend la figure de son père, mort en 2000 à Hammamet en Tunisie, où il s'était enfui après sa condamnation pour corruption. 30 ans après le début de Manipulité, la collusion entre magistrats et politiques est au cœur de la réforme de la justice portée par la ministre Marta Cartabia.
Un magistrat qui décide de se lancer en politique ne pourra plus reprendre son poste. C'est un changement important. Il y a aussi des scandales récents avec ce que l'on appelle les nominations groupées, lorsque les différents courants de la magistrature s'entendent pour se partager les postes importants. Les nouvelles règles ne devraient plus le permettre.
Sauf que les partis sont encore divisés sur cette réforme et la frontière entre justice politique et mafia n'est pas encore étanche en Italie. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et à Rome comme à Paris et dans toutes les grandes villes du monde, désormais les locataires cherchent des appartements pendant que les propriétaires préfèrent louer aux touristes. Alors les grandes métropoles s'organisent. La ville de Bordeaux a été l'une des premières en France qui limite depuis 4 ans les locations de courte durée à 120 jours par an. Pour ne pas l'avoir respecté, certains propriétaires ont été condamnés à des peines d'amende. Une sévérité qui semble avoir porté ses fruits, Marie Maheum, mais ça reste à vérifier.
C'est dans le centre historique qu'il y en avait le plus. Les annonces Airbnb sont désormais un peu moins nombreuses. Stéphane Pfeiffer, l'adjoint en charge de l'habitat.
On est parti d'une situation de 2018 avec 8 à 9 000 logements Airbnb sur la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, début 2022, on estime qu'on a un retour de 4 000 logements dans le marché de la location plus classique.
4 000 logements sur les 130 000 que compte la ville, ça paraît peu, mais c'était nécessaire à Bordeaux selon l'élu.
Quand aujourd'hui vous avez une énorme tension sur le marché de la location, et ben c'est 4 000 logements qui sont tout à fait adaptés à une vie quotidienne. Donc c'est des solutions supplémentaires pour les Bordelaises et les Bordelais.
Mais attention à l'effet Covid, prévient Victor Pigagnol. Ce doctorant en géographie étudie le phénomène Airbnb dans la métropole.
Il y a des gens qui ont potentiellement gelé leur annonce, donc qui attendent le retour des touristes. Et donc, pour combien de temps ces 4000 logements sont-ils disponibles pour des étudiants, des familles monoparentales, des familles classiques ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de temporiser, d'attendre justement le retour des touristes avant de repartir justement sur la plateforme et donc de réinonder le marché locatif de courte durée?
Airbnb, de son côté, se refuse à commenter les chiffres, mais assure que les propriétaires sur sa plateforme se sont conformés aux règles en vigueur.
Marie Maheu, France Bleu Gironde, à Berlin, l'ours d'or du cinéma, attribué à la réalisatrice espagnole Carla Simone pour son film Alcaraz, l'histoire d'une famille d'agriculteurs bousculée par la modernité, tournée avec des acteurs non professionnels. C'est la 3e jeune réalisatrice compositrice primée par un troisième grand festival après les Françaises Juliette Ducournau, Palme d'Or à Cannes et Audrey Diwan, Lion d'Or à Venise. Enfin, c'est le livre le plus vendu au monde, si l'on excepte la Bible et le Coran, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Une vaste exposition lui est consacrée au Musée des Arts Décoratifs à Paris, où l'on verra pour la première fois des feuillets du manuscrit de l'auteur aviateur. Ses tâtonnements, ses ratures, Ilana Mor-Youssef, qui n'ont jamais voyagé, contrairement à Saint-Ex.
De « Dessine-moi un mouton » à « On ne voit bien qu'avec le cœur », on a tous en mémoire des fragments du Petit Prince. Pourtant, de façon tout à fait surprenante, l'œuvre française la plus traduite au monde n'a jamais quitté les États-Unis. Alban Cerisier, éditeur chez Gallimard et co-commissaire de l'exposition.
Saint-Exupéry a écrit à New York le Petit Prince puisqu'il y était depuis la fin de l'année 1940. Il est parti en exil comme beaucoup d'autres intellectuels français. Saint-Exupéry part en avril 1943 pour l'Afrique du Nord. On sait que Saint-Exupéry disparaît en vol. Et avant d'être parti, il va chez sa compagne qui est aussi sa maîtresse, Sylvia Hamilton, à New York, et lui offre le manuscrit du Petit Prince. Donc en fait, le manuscrit du Petit Prince était la propriété de Sylvia Hamilton.
Sylvia Hamilton le conserve jusqu'aux années 60, où elle le vend à une bibliothèque new-yorkaise, la Morgan Library. Anne-Monier Van Rieb, conservatrice au Musée des Arts Décoratifs.
À la Morgan Library, il est dans les conditions de conservation les plus remarquables qu'on puisse imaginer, en termes de sécurité, température, contrôle de la lumière, etc. Accepter de le faire voyager pour le montrer en France, dans le pays d'origine de Saint-Exupéry, c'est un cadeau incroyable qu'ils nous font.
À voir aussi dans l'exposition des centaines de documents et d'aquarelles de Saint-Exupéry totalement inédits.
Voilà, la rencontre du Petit Prince au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 26 juin.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, ça soufflait plutôt fort ce matin.
Oui, jusqu'à 90 km/h, Jérôme, des côtes de la Manche aux crêtes vosgiennes, aux Alpes, à 60 km/h à l'intérieur des terres. Mais c'est le retour de belles éclaircies au nord de la Loire jusqu'aux Ardennes, alors que la perturbation est en train de s'essouffler du sud-ouest en remontant sur le massif central aux Alpes au Grand Est. En revanche, soleil autour de la Méditerranée sous un vent soutenu à 90 km/h. Et en Corse, vous aurez une matinée ensoleillée où il fait 1 degré, comme à Uzès dans le Gard, alors qu'on relève 16 dans les Pyrénées-Orientales. Et souvent, on tourne ce matin autour des 13 degrés, comme à Mulhouse. Il fait 12 à Brive, à Paris, et vous avez 10 à Lorient, 9 à Lille et 6 à Nice.
Et peu de changements cet après-midi.
Oui, si ce n'est le vent, Jérôme, qui va mollir sur la moitié ouest et au nord de la Loire, le ciel sera changeant, alternant éclaircies nuages. Et en fin de journée, le ciel va à nouveau se charger entre la Bretagne au pays de la Loire, annonçant l'arrivée donc demain de cette tempête qui va passer sur les îles britanniques et qui engendrera des vents tempétueux chez nous sur le nord, à surveiller donc demain. Et du sud-ouest au nord-est, toujours ciel gris, de faibles pluies et soleil autour de la Méditerranée, sous le vent, et des températures bien au-dessus des normales de saison. On attend, Jérôme, jusqu'à 20 degrés à Narbonne ou à Marseille, voire localement 23 degrés. Il fera 11 à Lille, 14 à Rennes, à Bourges, Strasbourg, Paris, 16 à Lyon et Bastia.
Voilà, douceur au programme. Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. 8h18, Géopolitique.